Vous savez, nous croyons dans cette Église que Dieu se manifeste à travers tout le monde. Ce n'est pas réservé à quelques élus, mais il se manifeste, on va en parler d'ailleurs aujourd'hui, à travers tout le monde. Et on aime laisser l'opportunité aux gens. C'est pour ça que tout à l'heure, Pascal vous a proposé de partager éventuellement une parole que Dieu vous aurait mise à cœur. Parce que nous ne sommes pas une Église dans laquelle c'est réservé au pasteur. Mais toute personne à travers qui le Saint-Esprit agit et donne quelque chose, eh bien, est libre de la partager. Alors les choses se font dans l'ordre, c'est vrai, mais néanmoins, ne soyez pas, j'anticipe presque déjà sur mon message, ne soyez pas frileux avec ça. Bien, est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ? L'enregistrement est lancé, chers amis ? Parfait. Est-ce que vous amenez vos Bibles avec vous ce matin ? Parce que je sais que les versets sont projetés sur le mur, mais ça, c'est une incitation à la paresse. Amenez vos Bibles, je vais vous dire pourquoi. Parce que le mur, vous ne l'avez pas à la maison. Et qu'il est bon aussi de développer cette habitude, d'ouvrir sa Bible. Il est bon de faire travailler sa mémoire visuelle en disant « Je l'ai lu dans ma Bible ». Parce que quand le matin, vous allez l'ouvrir, vous allez dire « Je sais que ce passage existe. Il est en haut à droite d'une page, par exemple. » Ou ce genre de choses. Mais il faut développer cette habitude-là. Bien, nous sommes le dimanche de Pentecôte, chers amis, n'est-ce pas ? On va parler de la Pentecôte ce matin. Et je vais vous donner le titre de mon message. J'espère qu'il va vous faire froncer les sourcils. La Pentecôte, c'est pour les autres. Mais à la fin, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Enfin, j'espère, c'est mon but en tout cas. Si ce n'est pas le cas, venez me voir. Ou réécouter le message. Bien. Luc chapitre 24. On va regarder plusieurs écritures ensemble. Luc chapitre 24. Il nous est dit au verset 45. Alors, donc c'est après la résurrection, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que ça arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Actes chapitre 1, verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit, chaque mot est important, hein, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Bien. Acte chapitre 2, je peux vous dire avec précision que Acte chapitre 2 se passe très exactement 10 jours après Acte chapitre 1. Vous voyez, quand il leur a dit d'attendre à Jérusalem, il n'avait pas prévu qu'ils attendent 2 mois, 1 an. 10 jours, très exactement. Tu vas dire, comment tu le sais ? Parce que la Bible nous dit que Jésus, après sa résurrection, est resté 40 jours avec ses disciples avant son ascension. Et la Pentecôte se passe très exactement 50 jours après Pâques. Pourquoi ? Parce que c'est ce que veut dire le mot Pentecôte. 50 jours, pinta en grec, 5, kosti fois 10. Pentecôte en grec, pentakosti. Regardez dans Actes chapitre 2. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. » Et je me suis posé la question récemment. Ce mot apparaît de la sorte pour la première fois dans la Bible. Et il a l'air d'être une telle évidence. Bah oui, c'était le jour de la Pentecôte, quoi. Et on se dit, ah non, non, c'est comme ça qu'on a baptisé, sans jeu de mots, le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit. Non, monsieur, non, madame. La Pentecôte est une fête juive à la base. C'est la fête de Shavuot. C'est la fête, Shavuot veut dire les semaines. C'est la fête des semaines. Pourquoi les semaines? Parce que Shavuot se passe très exactement 7 semaines, 7 fois 7, 49, après Pessah. Elle a pour but de célébrer les premières... Jean-Daniel, je parle sous ton contrôle, tu es mon expert aujourd'hui. Elle a pour but de célébrer les premières moissons. C'est bien ça? D'ailleurs, il y a un rituel. Lorsqu'on apporte les premiers fruits, les prémices, qu'on les amène à Dieu, tu ne te présenteras pas devant moi les mains vides, lorsqu'on amène les premiers fruits à Dieu, il y a une façon de faire les choses. Bien, aujourd'hui, les Juifs fêtent Shavuot. Et c'est précisément ce jour-là, de la fête de Shavuot, qui avait lieu à Jérusalem, ce jour-là, que Dieu a décidé de faire quelque chose. Vous croyez que les choses sont laissées au hasard? Non. Je vous invite à réécouter le Weekend Studio, la série d'enseignements de notre pasteur sur les fêtes juives et leurs secrets. Elle en parle très bien. Pour ceux que ça intéresse, vous regarderez dans Exode, au chapitre 23, cette histoire de fête. Shavuot, c'est une grosse fête. C'est une des trois fêtes principales. Vous avez Pessah, vous avez Shavuot et vous avez Sukkot, c'est-à-dire la fête des cabanes, la fête des tentes. D'accord? Donc, c'était un gros événement à Jérusalem. Et ça vous explique pourquoi il nous est dit quelques versets plus loin dans le chapitre 2 qu'il y avait ce jour-là à Jérusalem des Juifs venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'était pas carnaval ce jour-là, c'était Shavuot. Ils avaient fait le déplacement pour monter à Jérusalem et célébrer cette fête-là. Et Dieu a décidé d'agir. Alors, chapitre 2, versets 1 à 21. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Ils ne savaient pas que le Seigneur allait faire quelque chose ce jour-là. Eux, ils attendaient le Saint-Esprit. Les disciples dont nous parlons, qui étaient réunis ce jour-là, au nombre d'environ 120, pas d'environ, 120, attendaient quelque chose. Et comme ils étaient à Jérusalem, ils se sont dit, ils étaient à Jérusalem 10 jours avant. Ils se sont dit, bon, bah, autant y rester, c'est Shavuot dans 10 jours. Souvenez-vous que les premiers Juifs restaient Juifs. C'était pas des païens. Donc pour eux, bah, ils continuaient leur vie juive. 10 jours plus tard, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule. Et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Étymologiquement, c'est littéralement, c'est « ils étaient tous hors d'eux-mêmes ». Ils hallucinaient. Grave. Qu'est-ce que c'est que ce truc? De fou, de ouf. Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens, se disaient-ils? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Partes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de Libye, voisine de Cyrène, résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres « qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais d'autres, quand même extraordinaire, se moquaient en disant « bon, ils sont ivres, ils sont pleins de vin doux ». Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, il est 9h du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Bien. Verset 37. Pierre continue son discours, et après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Eh bien, repentez-vous, changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En effet, la promesse, d'ailleurs, ce n'est pas conditionnel, c'est Vous faites cela et ensuite, eh bien, vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage, les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole, donc tout le monde n'a pas accepté sa parole, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On peut même continuer. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Est-ce que ça veut dire que nous avons l'obligation de faire de même ? Je ne le crois pas. Est-ce que ça veut dire qu'eux ont été inspirés à faire cela ? Oui, ça ne me pose pas de problème. Si c'est ce que le Saint-Esprit les a inspirés à faire, bien gloire à Dieu. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église a fait un bond de 120 à 3120 personnes en l'espace de quelques heures. Il nous est dit ensuite qu'il y avait des signes et des prodiges miraculeux. Il nous est dit que, je ne sais pas si vous imaginez, 3000 personnes qui rentrent dans le royaume de Dieu d'un seul coup. À mon sens, ce n'est pas pour rien que cette moisson a eu lieu pendant la fête des moissons. Et signes et prodiges ont suivi, qui faisaient que d'autres personnes continuaient de rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui a permis cela ? Clairement, le baptême du Saint-Esprit. Le fait que la puissance de Dieu, ce jour-là, ait été déversée sur les 120 qui étaient là, pas que sur Pierre, sur les 120 qui étaient là, et qu'ensuite, eh bien, ça ait permis une grande moisson. J'attire votre attention sur le fait que la Pentecôte, qui a eu lieu ce jour-là, n'était pas pour eux. Le fait qu'ils se soient mis à parler en langue ce jour-là, ça n'était pas pour eux. C'était pour ceux qui allaient entendre et, frappés par ce signe, entrer dans le royaume de Dieu grâce à ce qui venait de se passer. Ce jour-là, la Pentecôte, c'était pour les autres. Ça commence à aller mieux au niveau du titre ? Vous dites, mais la Bible nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est vrai, on va le voir après. Il faut bien faire la différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Nous croyons, d'après les Écritures, que ce sont deux expériences distinctes. Ce n'est pas le cas de tout le corps de Christ. Certains pensent que quand vous vous faites baptiser, vous naissez de nouveau, le Saint-Esprit vient en vous et il n'y a pas d'autre expérience à attendre de cela. Mais d'après les Écritures que l'on va voir, ce sont deux choses différentes. La nouvelle naissance, c'est ce qui nous est dit dans Ézéchiel au chapitre 36. C'était prophétisé, Ézéchiel 36, verset 26. La Pentecôte, c'est pour les autres. 36, 26, 27. Il nous est dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous, pas sur vous, en vous, un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. » C'est ce qui est écrit là-haut aussi, n'est-ce pas ? Ouais. « En vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Lorsque nous naissons de nouveau, notre cœur de pierre est enlevé, le Seigneur met son esprit en nous, c'est-à-dire un cœur de chair, et nous devenons capables, dans cette communion avec Dieu, de respecter ses règles, d'observer, de pratiquer ses lois, c'est-à-dire de vivre conformément à ce que Dieu veut pour nous. Ce que ne peut pas faire quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit à l'intérieur de lui pourra peut-être faire preuve de bonne volonté, pourra peut-être faire preuve d'effort et de discipline, mais il est incapable de vivre au standard que Dieu a pour sa vie. Jean chapitre 3, verset 8, Jésus parle à Nicodème et il lui explique la nouvelle naissance en lui disant « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Est-ce que c'est ce qui est écrit là-haut ? Oui. De tout homme, toute personne qui est née de l'Esprit. Donc cette nouvelle naissance, c'est bien cela. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous et qui nous redonne la vie, qui enlève notre cœur de pierre, qui nous met un cœur de chair, qui nous permet de naître à nouveau. Au chapitre 20 de Jean, toujours, il nous est dit, verset 22, après ces paroles, ça c'est intéressant, et je crois que ça n'apparaît que dans l'évangile de Jean, après ces paroles, c'est-à-dire quand Jésus est ressuscité, qu'il vient voir ses disciples, et qu'il leur flanque une bonne frousse en passant à travers la porte. Bouh! Il est dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Gardez ça en tête. Et est-ce que ça ne nous rappelle pas ce qui s'est passé dans Genèse au chapitre 2, verset 7 ? L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Donc, ce que Jésus fait, ou ce que Dieu fait à travers Jésus, à la nouvelle naissance, c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. Vous savez, ils avaient vécu avec Jésus, mais ils ne pouvaient pas naître de nouveau tant qu'ils n'étaient pas morts, ensevelis et ressuscités, et qu'ils ne l'avaient pas vu de leurs propres yeux. Une fois que ça a été fait, il a soufflé sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Et c'est à ce moment-là, l'ayant vu ressuscité, qu'ils sont nés de nouveau, que leur esprit a été ramené à la vie. C'est quoi l'esprit ? La partie la plus intime de toi, le souffle de vie, ce qui est à l'intérieur de toi, le vrai toi. C'est pas ton corps, c'est pas ta façon de penser, c'est pas tes émotions, d'accord ? Et quand Dieu a créé Adam, c'est ce qu'il a fait, mais Adam a péché et son esprit est mort. Jésus a redonné la vie à ses disciples comme il la redonne à toute personne qui décide de se tourner vers lui, de dire « Je crois que tu es ressuscité, je crois que tu es le Fils de Dieu », faire exactement ce qu'ils ont fait. Et naître de nouveau. Ok ? Bien, ça c'est la nouvelle naissance. C'est l'Esprit de Dieu, on l'a vu, qui vient en nous, qui nous transforme de l'intérieur, qui nous ramène à la vie, et ça nous rend capable, on l'a vu tout à l'heure, de vivre la vie que Dieu a pour nous. Ok, maintenant, Actes chapitre 8, versets 12 à 17. Philippe prêche l'évangile en Samarie. Il y va comme comment on pourrait dire ça ? Un apôtre, il y va comme un missionnaire. Verset donc 12, « Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. » Donc, quand Philippe va en Samarie, annonce l'évangile, ces gens le croient. Et lorsqu'ils le croient, ils se font baptiser. Ce qui veut dire, ils sont nés de nouveau. On est bien d'accord. Regardez ensuite, verset 14, « Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. » Entre parenthèses, ce qui est intéressant, c'est que Jésus avait dit, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie. » Donc on voit que petit à petit, la parole se réalise, « et jusqu'aux extrémités de la terre. » Là, on est en Samarie. Lorsqu'ils virent donc que les Samaritains avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent, qui était un sorcier, un magicien, hein. En tout cas, il le prétendait, en leur disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Donc, deux choses. Un, on voit que ces gens ont été baptisés du Saint-Esprit après être nés de nouveau. On est bien d'accord, d'après les Écritures. On voit également que lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, quelque chose s'est vu, puisque Simon l'a vu. Ce n'était pas juste une expérience intérieure, à moins qu'il ait eu des yeux laser à la kryptonite. Vous voyez ? Mais sinon, il a bien fallu qu'il y ait un signe extérieur qui se manifeste pour qu'il voit que ces gens avaient reçu le Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit, on voit ici que c'est bien distinct, c'est consécutif à la nouvelle naissance. Actes chapitre 10, verset 38. Ça va, vous me suivez ? Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Je répète, vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth. Luc chapitre 4, Jésus avait annoncé la même chose lorsqu'il était sur terre, verset 18-19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », donc il est en train de lire, il est dans une synagogue à ce moment-là, il déroule la prophétie d'Ésaïe, et il lit le passage d'Ésaïe, qui n'était que prophétique au moment où il a été écrit, sauf que là il le lit en disant « C'est pour maintenant, ça s'accomplit avec moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux prisonniers la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour dans tous les sens d'ailleurs. Hein. Vous savez que quand Jésus rend aux aveugles le recouvrement de la vue, ça n'est pas que la guérison physique dont il est question ici. Et ça ne concerne pas que, parce que je vous vois, petit malin, ça ne concerne pas que votre conjoint, votre collègue de travail, votre enfant rebelle, ou que sais-je ? Ah oui, hein, il a bien besoin de recouvrer la vue, celui-là. Hein. Ça nous concerne nous aussi, parce qu'il y a des domaines de notre vie où nous sommes aveugles. On se bat et on se débat contre les symptômes, mais la racine nous est cachée. Et on a besoin que le Saint-Esprit nous révèle les choses. Je ferme la parenthèse. Pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, verset 21, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc, on voit que Jésus, d'après Luc et Actes, avait reçu l'onction du Saint-Esprit sur lui pour accomplir certaines choses. On vient de le voir. Libérer les captifs, proclamer une année de délivrance, rendre la vue aux aveugles, guérir ceux qui ont le cœur brisé. D'accord ? Dans Actes, on a vu, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il libérait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, il guérissait les malades. Pourquoi ? Parce qu'il avait l'onction de Dieu sur lui. Parce que c'était Jésus ? Non ! Parce qu'il avait l'onction de Dieu sur lui. Si le Seigneur avait décidé de déverser son onction sur Micheline ce jour-là, Micheline l'aurait fait. Je sais pas, c'est un prénom générique que je trouve assez générique, justement. Et s'il y a des Michelines qui nous écoutent sur Internet... Il n'y a rien de personnel là-dedans. Hein. Bon, sur Fabrice, voilà. Mais il a décidé de le faire sur Jésus. Et Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, au verset 12, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. » Il leur dit un peu plus loin, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Mais parce que je m'en vais, je prierai le Père et il vous donnera l'Esprit promis. » C'est-à-dire que vous vous rendez compte que quand Jésus était sur terre, hormis les moments où il a délégué son autorité aux apôtres, mais qui étaient un nombre limité, pour faire certaines choses, et uniquement certaines choses, ils n'avaient pas la plénitude d'onction, ils avaient la possibilité de chasser les démons, ils avaient la possibilité de guérir des malades. Mais la plénitude, elle vient sur l'onction du Saint-Esprit que Jésus a reçue de Dieu. Et il dit, c'est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que là, eh bien, Jésus va se multiplier à ce moment-là. Par 120, par 3000, par 15 millions, 1 milliard. Vous vous rendez compte ? Est-ce que vous voyez la différence entre le Saint-Esprit qui vient en nous à la nouvelle naissance pour redonner vie à notre cœur, rétablir notre communion avec Dieu, nous rendre capables de vivre une vie sainte, en communion avec lui, et le Saint-Esprit qui vient sur nous pour nous revêtir de puissance et être capable de faire les œuvres que Jésus a faites, voire de plus grandes. Vous voyez la différence entre les deux ? En nous, c'est la nouvelle naissance. Sur nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous relirez les versets. Vous remarquez également dans Jean chapitre 14 que il est dit donc « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. » C'est-à-dire que dans la pensée de Jésus, il n'était pas question de rester pantouflé à la maison. Il n'était pas question de dire « Ah mais moi je ne mérite pas Seigneur. » Non, non, laissons les autres faire ce qui doit être fait. Il n'était pas question de ça. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. C'est un ordre. Il en fera même de plus grandes. Mais puisqu'on a vu que ces œuvres-là n'ont pu être faites par les apôtres qu'à partir du moment où ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, ben, c'est QFD, nous devons tous recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Sans quoi ? Sans quoi on va être extrêmement limité. Sans quoi ta vie va se limiter à ta petite communion avec Dieu, mais qui va bien vite s'étouffer parce que tu ne vis pas dans la plénitude de l'aventure que Dieu veut pour ta vie. Tu ne vis pas dans la plénitude de l'amour que Dieu veut manifester pour les autres. Quand Dieu veut manifester son amour pour les gens, c'est pas juste en les serrant dans les bras, c'est en les guérissant, c'est en les délivrant, c'est en réparant les cœurs brisés, c'est en libérant les captifs, c'est en redonnant la vue aux aveugles, etc., etc. Ce sont toutes des manifestations de l'amour de Dieu pour les gens. Comment va-t-il les donner ? Dans leur sommeil, pendant qu'ils sont en train de dormir ? Ben, ça peut arriver, mais c'est pas le moyen principal qu'il a choisi. Le moyen principal qu'il a choisi, c'est les chrétiens. C'est Jésus multiplié par 120, 3000, 1 million, 15 millions, 1 milliard, 6 milliards. Pourquoi pas ? Vous comprenez ? Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option, c'est indispensable. Quand il leur a dit « Restez à Jérusalem et attendez de recevoir l'Esprit promis », il leur a pas donné une bonne idée ou soumis une option. Il leur a dit « Restez à Jérusalem, c'est un ordre. Ne rentrez pas chez vous, ne repartez pas dans les bourgades pour commencer à évangéliser. Ne bougez pas tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit promis. » Et heureusement qu'ils n'ont pas bougé, parce que ce jour-là, 3000 personnes sont venues au Seigneur, l'église de Jérusalem a pu servir de quartier général, et c'est à partir de l'église de Jérusalem que l'évangile a commencé à se répandre sur terre. Que se serait-il passé s'ils avaient dit « bon, d'accord », et puis le 8e jour, 9e jour, « écoute, c'est un peu long, on plie bagage, écoute, je viens de recevoir une lettre par porteur, il faut que je rentre, on m'attend, mon business, tu comprends, ma vie reprend ses droits. » Que se serait-il passé ? Ben, déjà, celui qui s'en va n'est pas rempli du Saint-Esprit, n'est pas baptisé du Saint-Esprit, et puis l'œuvre du Seigneur, eh bien, elle ne se fait pas comme elle doit se faire. Vous comprenez la nécessité d'être baptisé du Saint-Esprit. L'Esprit en nous pour notre bénéfice. L'Esprit sur nous, c'est pour les autres. La Pentecôte, c'est pour les autres. Vous comprenez ça ? Bien. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Ça va toujours ?
Oui.
Voici ce que je dis. Marchez par l'Esprit. Donc, Paul est en train de s'adresser à des chrétiens. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair. Il y en a qui disent « Ah, mais je lutte. » Marche par l'Esprit. Marche par l'Esprit, on va voir ce que ça veut dire. Et tu n'accompliras pas les désirs de ta chair. J'ai expérimenté le fait que marcher par l'Esprit, ça veut aussi dire être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit peut avoir à nous dire à notre propre sujet. Ça ne veut pas simplement dire « aller prier pour les autres », ça ne veut pas simplement dire « aller imposer les mains », ça ne veut pas simplement dire « ah, je voulais prendre la rue Arson pour rentrer chez moi, mais là je sens que je dois plutôt prendre la rue ». Non, ce n'est pas uniquement ça. Ça peut arriver. Marcher par l'Esprit, c'est aussi, vous savez, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous révélera toute la vérité et les choses à venir. Et la vérité, c'est aussi la vérité à notre propre sujet. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça aujourd'hui, mais j'ai été guéri de certaines choses à partir du moment où j'ai accepté que le Saint-Esprit me prenne par la main et me dise « Eh bien maintenant, fils, on va aller faire une petite balade, toi et moi, à l'intérieur de toi-même, dans ta vie, dans ton passé, dans ce que tu as vécu ou pas vécu, dans ce que tu as fait, pas fait, compris, pas compris, etc. etc. » Vous savez, ce genre d'endroit où on n'a pas trop envie de laisser rentrer les autres, ce genre d'endroit dont on ne parle pas. Mais c'est aussi ce genre d'endroit dans lequel se trouve la racine, qui produit les fruits, contre laquelle tu peux lutter autant que tu veux, tant qu'il y a la racine, il y a la racine. Donc marcher par l'Esprit, ça veut aussi dire, eh bien, accepter la conduite du Saint-Esprit pour déraciner ce qui provoque les fruits de la chair. Vous comprenez ? En effet, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, et ce qui m'intéresse, c'est surtout verset 22. Le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit. Bien, le fruit de l'esprit. Qui dit fruit dit branche, racine. Donc, ce dont on parle ici, c'est le fruit de l'esprit qui est en toi, ce qui va émaner de ton cœur, né de nouveau. Le fruit de l'esprit, c'est quoi ? L'amour, pour toi et pour les autres. La joie, qui est notre force, nous dit la Bible. La paix, qui surpasse toute intelligence. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. 9 fruits de l'esprit. Question, est-ce que ces choses-là, prier Dieu jour et nuit pour nous donner plus de patience, sert à quelque chose? Question piège. Attention, roulement de tambour. C'est déjà en toi. C'est déjà en toi. Tu as déjà dans ton esprit la plénitude. Vous vous souvenez, dans Éphésiens chapitre 1, il nous a dit « Dieu nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Tu as déjà en toi la plénitude de ces choses. Tu as toute la patience dont tu as besoin. Tu as même plus, parce qu'on sait que Dieu fait toujours les choses en surabondance. Tu as toute la joie en toi dont tu as besoin au milieu de la période où ta chair n'a pas envie d'être joyeuse. Mais on s'en fout. C'est pas sa chair qui commande. C'est nous-mêmes. Tu as déjà en toi toute la bonté dont tu as besoin pour démontrer l'amour de Dieu à l'égard de quelqu'un d'autre. Tu as déjà en toi la foi dont tu as besoin. Que faut-il faire ? Il faut marcher par l'Esprit. Il faut accepter de laisser le Saint-Esprit prendre le dessus, de laisser le Saint-Esprit nous montrer certaines choses, d'obéir à ses injonctions et de le faire. Une chose qui est importante, ce n'est pas dans mes notes, c'est que nous avons tendance à compartimenter. On pense que si je veux que mon mariage prospère, je vais devoir suivre la conduite du Saint-Esprit dans ce qu'il me dit dans mon mariage. Eh ben non. Tu vas peut-être devoir suivre la conduite du Saint-Esprit dans ce qu'il te dit à ton boulot. Parce qu'il n'y a pas de compartiment. Quand le Saint-Esprit t'amène à faire quelque chose, ou à cesser de faire quelque chose, ou à comprendre quelque chose, ou à passer plus de temps dans certaines choses, ça n'est pas uniquement pour la catégorie de la chose en question. Il a bien fait de venir ce matin, hein ? Je sens que ça... Donc il faut suivre... Pourquoi ? Parce que je crois qu'on se connaît très mal. Et je suis aussi convaincu que ce qui m'arrive est le fruit de ce que je suis. Donc, j'ai besoin de changer. Ma chair a besoin de changer, ma façon de penser a besoin de changer. Seulement, je me connais très mal. Quand les choses sont profondément enfouies en vous, vous pensez savoir quelle est la racine qui provoque ce symptôme ? Le principe de l'inconscient, c'est qu'il n'est pas conscient. Donc quand c'est calé là-bas, au fond de toi, tu ne peux pas consciemment aller le chercher, parce que sinon, ça ne serait pas l'inconscient. Et j'arrête mes cours de psychologie à 2 balles, que je n'ai pas fait. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et tu as besoin d'obéir au Saint-Esprit dans tout ce qu'il te dit de faire. Sans dire, oui mais mon problème aujourd'hui, il est là, il est à mon travail. Hein, j'ai besoin d'un miracle dans mon travail. Alors, bon, c'est vrai que le Seigneur me dit de faire certaines choses à la maison, mais Seigneur, je veux que tu agisses dans mon travail. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Tu as besoin de changer. Mais si je ne peux pas t'attaquer de manière frontale à la maison, je vais t'amener à changer à travers ton travail, par exemple. Donc cessons de compartimenter. Je referme le compartiment. Les fruits de l'esprit, ce sont des choses qui naissent naturellement de l'esprit qui est en nous, pourvu qu'on lui laisse libre cours. Plus on médite la parole, plus on se connecte à Dieu, plus on médite sur qui on est, sur le Saint-Esprit qui est en nous, plus on écoute sa voix, ces fruits vont naître naturellement. Ok ? En revanche, dans 1 Corinthiens chapitre 12, Ça va, vous êtes toujours avec moi?
Oui.
Vous avez besoin que je fasse un gag pour vous détendre un petit peu? Qu'est-ce que je peux faire? Voyons voir. Attention, hop! Voilà, ça va mieux? Ça va mieux. 1 Corinthiens chapitre 12. Pour ceux qui nous suivent sur internet, vous manquez à ne pas venir à l'église de la Bonne Nouvelle. Verset 7, or... Non, même verset 4, tiens, laisse tomber la technique, je vais le lire. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Verset 7, à présent, or, à chacun, dites chacun. Chacune. Moi. L'autre. La manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Il n'est pas parlé des fruits de l'esprit ici, il est parlé des dons de l'esprit, la manifestation de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quelque chose de permanent. Plus tu cultives ta relation avec Dieu, plus le fruit va jaillir de toi. Le don de l'esprit, c'est un don de l'esprit. Il le donne quand il veut, à qui il veut, on va le voir après. Et ce n'est pas parce que tu as eu une parole de prophétie que tu peux quitter ton job et ouvrir une auto-entreprise de prophète. Ne le fais pas encore tes cartes de visite avec ça. D'accord ? Maintenant, il y a des gens où effectivement, c'est une onction qui est permanente sur eux. Et le Seigneur les appelle, selon Éphésiens, à être dans le ministère à plein temps de prophète, ou de pasteur, ou d'évangéliste, ou d'apôtre, ou d'enseignant, peu importe. Mais en dehors de ça, il y a les fruits de l'esprit pour ta vie, la paix, la joie, la bonté, la foi, l'amour. Et il y a les dons du Saint-Esprit. Quels sont-ils ? En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est que toutes ces choses, hein, mais à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. Ah, je croyais que la foi, c'était un... Je fais une parenthèse. Je croyais que c'était un fruit de l'Esprit, on l'a vu tout à l'heure. Alors, c'est un fruit ou c'est un don ? Ben, la foi est un fruit de l'Esprit, mais il y a un don particulier de la foi que le Saint-Esprit donne à un moment donné. À un instant T, ça vient sur toi, et alors là, la montagne, je peux te dire, elle bouge. « Seigneur, donne-moi ce don-là. » Ben oui et non, parce que c'est soumis au bon vouloir du Saint-Esprit. Et moi, je préfère développer les choses que je peux avoir de manière permanente plutôt que de devoir attendre que le Saint-Esprit décide de me donner ou de ne pas me donner quelque chose. Ensuite, il est dit, donc par le même esprit, « À un autre, des dons, pas un don, les dons, des dons de guérison, au pluriel, par le même esprit. » À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. Qu'est-ce que tu as là-haut ? La diversité des langues, c'est ça. À un autre, l'interprétation des langues. Bien. Je ne vais pas prêcher sur le parler en langue aujourd'hui, mais je vais vous le dire simplement, et vous étudierez les Écritures par vous-même, y compris le chapitre 13 et 14 de Corinthiens qui suivent, 14 notamment, sur l'usage des langues. Et il est clair, d'après les Écritures, que lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous parlons en d'autres langues, et que Paul, notamment, nous dit que c'est quelque chose que l'on peut pratiquer quand on le souhaite, pour notre propre édification. Mais tout comme la foi, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, il y a un parler en langue, qui est un parler en langue, on va dire prophétique. Je vais le mettre dans cette case-là pour que vous voyez à peu près de quoi je parle. Quelque chose qui se manifeste pour l'utilité commune pendant l'exercice du culte, ou pendant... Un rassemblement quel qu'il soit. Et Paul nous dit ensuite que ce genre de langue-là, elle a pour but d'édifier le groupe, pourvu qu'on l'interprète. Parce que si tu ne l'interprètes pas, bah tu ne sers à rien. Je t'ai cassé là. T'es comme le H de Hawaï. Tu ne sers à rien. Oh, dites pas, bon, peu importe. Donc, Bryce de Nice, pour ceux qui se posent la question. Donc, il faut que ça soit interprété. Et l'interprétation est un don. Et Paul va jusqu'à dire ensuite, dans le culte, dans l'exercice du culte, hein, pendant l'assemblée, eh bien, s'il n'y a pas d'interprétation, celui qui voulait donner sa parole en langue, il se tait, il se la garde pour lui. Il la parle à Dieu. Mais par contre, celui qui a cœur de donner une langue et qui dit « je sais qu'il y a quelque chose », ça veut dire qu'il y en a un autre qui reçoit l'interprétation. Pour l'utilité commune. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure ? À chacun. Mes chers amis, combien on est dans cette salle ? Une cinquantaine ? 55. comment se fait-il, et ce n'est pas un jugement, c'est juste une question que je me pose, que dimanche après dimanche, il y ait si peu de manifestations du Saint-Esprit sur chacun, chacune, pour l'utilité commune, et que de temps en temps, il y a une timide parole qui est donnée au micro, ce qui est déjà bien. Florence l'a fait tout à l'heure, Christelle l'a fait tout à l'heure. Et moi, je crois que vous vous sous-estimez. Et je crois que vous vous dites, non, mais ça ne peut pas être Dieu. Bon, c'est juste une pensée. Mais tu sais quoi, une parole de Dieu, ce n'est pas forcément un long discours. Ça peut être un mot, ça peut être une image, ça peut être un son, ça peut être un chant, ça peut être un geste. Réécoutez les enseignements de la conférence de prière de l'année dernière de Terry Copeland à ce sujet, Terry Pearsons, elle disait « L'expression du Saint-Esprit n'est pas limitée, il y a une variété de manières par lesquelles le Saint-Esprit peut vouloir agir. » Mais c'est pour le bien de tous, c'est pour l'utilité commune. Ce qui veut dire que si je ne fais pas ma part, si je sais que le Saint-Esprit est en train de me donner quelque chose pour l'Assemblée et que je ne le donne pas, je prive l'Assemblée de ce qui lui revient ce dimanche-là. Les gens vont repartir sans ce que le Seigneur voulait leur donner. Donc je vous encourage vraiment avec ça. Dans la suite de Corinthiens, donc Paul donne des instructions en disant « les choses se font dans l'ordre ». C'est pour ça que dans notre Église, tout le monde ne monte pas sur sa chaise dans son rang en disant, en prenant la parole, c'est la foire d'empoigne, tu vois, « Tais-toi, toi là-bas, c'est à moi maintenant !» À vouloir justifier qu'on est le plus spirituel de la bande, pas du tout. Mais si vous avez quelque chose, venez voir le pasteur, dites « j'ai quelque chose ». Alors peut-être qu'elle va vous dire « bon, qu'est-ce que c'est ? Dis-moi un petit peu. » D'accord, tiens, prends le micro, donne ce que tu as. Donne ce que tu as pour l'utilité commune. À chacun, pas à quelques-uns. Donc si ça fait 29 ans que tu n'as pas eu une manifestation sur toi du Saint-Esprit pour l'utilité commune, j'ai tendance à dire « non, c'est parce qu'en vérité, il y en a eu et tu n'en as pas tenu compte ». Ou tu as eu peur, ce qui est légitime. Hein. C'est pas, comment dirais-je, tout le monde n'aime pas forcément se lever, prendre la parole, mais il faut le faire. D'abord, c'est de plus en plus facile. Et en plus, tu dis, si je me plante, ben, tu sais quoi, il vaut mieux se planter et passer à côté que de ne pas donner et priver quelque chose à quelqu'un, quelqu'un de quelque chose. Il faut se lancer, il faut se lancer. Il y a des gens qui, au cours de... Je me souviens des gens, des fois, qui prennent le micro, ils bégayent, il y en a qui pleurent, il y en a qui... Oh là, voilà, s'y parle l'Éternel. Mais c'est pas grave, il faut le faire. Il faut le faire, d'accord ? Donc, vous voyez bien... Ah oui, et puis une dernière chose qui est importante, je vais juste vous le lire, au verset 32 du chapitre 14, il nous est dit « L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent « moi, je suis possédé du Saint-Esprit ». Ben, ils ont raison et ils ont tort. Ils sont effectivement possédés, mais ce n'est pas du Saint-Esprit. Oh, shocking ! Écoute, je lis la Bible. « L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand l'esprit vient sur toi, et tu as un impérieux besoin de dire quelque chose, tu restes maître de le dire ou de ne pas le dire. La preuve, vous ne le dites pas. Je plaisante, ça va. Mais on reste maître. On reste libre.
Toute seule, je pense.
L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc, tu décides de laisser libre cours ou de fermer ta bouche. Tu sais que tu ne peux pas ouvrir ta bouche si tu n'as pas l'intention de l'ouvrir. C'est tellement vrai que le parler en langue, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas une espèce d'ivresse extatique, une transe. Alors, vous lisez dans certaines notes qui disent « oui, oui, il y a des transes ». C'est chez les peuplades païennes, vous savez, quand ils sont autour du feu, effectivement, là, non mais blague à part, il peut y avoir une perte de contrôle, etc. Mais Dieu n'a jamais dit qu'on disparaîtrait de l'équation et qu'il allait prendre le contrôle sur nous pour que nous soyons des marionnettes entre ses mains. Nous collaborons avec Dieu. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. J'ai lâché un pavé dans la mare, peut-être. Écoutez, lisez les Écritures, chacun est libre de penser ce qu'il veut, d'accord ? Mais ici, il nous est dit, et c'est pour ça que parfois, je ne suis pas à l'aise avec quelqu'un qui d'un coup va se mettre à hurler pendant un culte. De toute façon, c'est simple. Et regarde, c'est pour l'utilité commune, n'est-ce pas ? Bien. Quelle est ta réaction quand il y a ce genre de manifestation ? Tu te sens édifié ? Tu te sens encouragé ? Tu dis « Oh, merci Seigneur, ce hurlement m'a fait du bien !» À un moment donné, il faut avoir un peu de bon sens aussi, hein, je veux dire. Non pas que le Seigneur nous fasse faire forcément des choses rationnelles, mais c'est pour l'utilité commune. il nous est dit de juger les esprits, et l'esprit des prophètes reste soumis aux prophètes. Ok ? Qu'est-ce qui est écrit là-haut ? Ce n'était pas écrit ce passage-là. Vous regarderez dans d'autres traductions, mais c'est très très clair. Je reste maître, je reste libre. Je ferme cette parenthèse-là également. Donc, vous avez bien compris la différence entre la nouvelle naissance, entre le Saint-Esprit qui vient en nous, qui régénère notre cœur, qui nous ramène à la vie, qui nous connecte à Dieu, et ça, eh bien, ça provoque des fruits dans notre vie. Mais ce n'est pas pour rien que Paul a dit « Marchez selon l'Esprit, vous ne marcherez pas selon la chair ». Là encore, on a le choix. Et si Dieu pouvait nous posséder, on serait tous sauvés, non ? Si Dieu pouvait nous posséder, on serait tous remplis du Saint-Esprit. Il y aurait des miracles par toute la terre, c'est extraordinaire. Il n'y a plus une prison, il n'y a plus un meurtre, il n'y a plus une dispute conjugale. On est tous possédés par Dieu. En bon petit robot. Sauf que ce n'est pas le cas. Donc, on a le choix. Je marche avec l'esprit, je ne marche pas avec l'esprit. Je marche selon la chair, ou je dis, n'inquiétez pas, ça veut dire que c'est, il est temps pour moi de clôturer. Ou je ne marche pas selon la chair, et je décide de mettre l'esprit en premier. Là, c'est les fruits qui vont commencer à sortir. En revanche, le don du Saint-Esprit, être revêtu de la puissance d'en haut, ça c'est quelque chose qui vient sur nous. Et une dernière chose qui est intéressante, c'est que dans un passage, il est dit de ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Et la notion, c'est soyez continuellement remplis de l'Esprit. Ce qui veut dire que la Pentecôte, vous pouvez la vivre au quotidien. La Bible nous dit, si quelqu'un demande le Saint-Esprit, Dieu ne va pas le lui refuser, il ne va pas lui donner un caillou ou un scorpion. Donc, si je dis « Seigneur, je veux être revêtu de la puissance de l'Esprit aujourd'hui, je veux avoir ta force, je veux avoir cette capacité de faire ce qu'on a vu dans Actes, dans Luc tout à l'heure, les œuvres de Jésus, et même de plus grandes encore, Dieu le fera. Et je peux continuellement, je ne sais pas, le Grand Prix de Monaco peut-être, tu regardes en direct, qui est en tête, Mika ? On entend... Qui veut, peut. Qui demande, reçoit. Donc, soyons continuellement remplis, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, d'accord ? Pour accomplir les œuvres. Ça va ? Bien. Ça, c'est bon. Est-ce que certaines personnes n'ont jamais reçu le baptême du Saint-Esprit parmi nous ? Je vais commencer par le commencement. Est-ce que certaines personnes n'ont jamais accepté Jésus dans leur vie ? Moi, je ne connais pas tout le monde ici. Si vous dites, écoute, moi, je mène ma vie sans Dieu jusqu'à présent, j'en ai entendu parler, mais sans plus, et il est là, et moi, je suis là. Ben, la Bible nous dit, il a envoyé Jésus pour faire la connexion entre nous deux. Et il veut venir dans notre vie, au quotidien, au plus profond de nous-mêmes. Si quelqu'un n'a jamais fait cette expérience et dit, oui, moi, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés, c'est ce que nous dit la Bible, il a pris la faute sur lui, il a payé la punition, eh bien, le salut vous est ouvert. Donc si c'est votre cas, eh bien, levez rapidement la main et puis venez, je prierai avec vous. Et autre chose, pour ceux, on l'a vu, qui sont nés de nouveau, la Bible nous dit, vous devez être baptisés du Saint-Esprit. Parce que si vous ne l'êtes pas, eh bien, vous allez vraiment rester à un niveau très 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 limité, ça sera pour vous-même, dans votre cœur. Mais vous savez, c'est un peu comme dans un couple, hein. On a beau s'aimer et se regarder dans le blanc des yeux, à un moment donné, il faut faire des choses ensemble, il faut développer un petit peu. Sans quoi, ça s'étouffe. Et là, c'est la même chose avec Dieu. Il a une vie extraordinaire dans laquelle il veut collaborer avec nous pour changer ce monde. Et ça, ça se fait par la puissance du Saint-Esprit. Si vous n'avez jamais vécu ce dont nous avons parlé ce matin, eh bien, vous pouvez vous approcher et on va prier pour que vous le receviez. Je n'ai pas eu le temps de lire toutes les Écritures, mais on voit que souvent, c'est par l'imposition des mains que les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Dans d'autres cas, par exemple, le jour de la Pentecôte, personne ne leur a imposé les mains. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Quand Pierre a évangélisé la famille de Corneille, eh bien, on voit dans le livre des Actes que dès qu'ils ont entendu le message, le Saint-Esprit est venu sur eux, ce qui veut dire qu'ils sont nés de nouveau, ces gens-là, et ils ont reçu le Saint-Esprit simultanément. Donc, on n'est pas obligé de vous imposer les mains, vous pourrez même le faire chez vous, dire « Seigneur, donne-moi ce Saint-Esprit, revêt-moi de cette puissance du Saint-Esprit. » Mais si vous voulez qu'on le fasse maintenant et qu'on prie maintenant, bah écoutez, on est à votre disposition.
Exode 23, verset 15, 15b. Alors, Jean 8, 58, Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Exode 23, verset 15b. Alors, tu ne te présenteras pas devant moi les mains vides. Alors, je ne vais pas vous dire des choses qu'on a l'habitude d'entendre lorsqu'on parle des dîmes et des offrandes. Mais je voudrais attirer notre attention sur un point très particulier. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant toute chose, il faut être. Et pour que quelque chose existe, il faut d'abord qu'elle soit. Lorsque nous faisons, nous apportons nos dîmes et nos offrandes, comme nous le dit Malachi 3, mettez-moi en épreuve, je voudrais pour vous les écluses du ciel et je laisserai tomber de la bénédiction en abondance de façon à ce que vous ne puissiez pas la contenir. Ça ne pourra arriver qu'à partir du moment où je suis. Mon offrande doit être l'expression de ce que je suis dans le Seigneur. C'est-à-dire que quand je viens pour apporter mon offrande, je viens avec ce que je suis dans l'instant dans lequel je suis. Je suis ici et maintenant, ce matin, à l'église à Bonne Nouvelle, et c'est ce que j'ai que je vais apporter. On pense souvent qu'il faut d'abord avoir l'argent ou d'abord avoir quelque chose avant de la partager, avant de l'apporter. Mais il nous est dit dans Exode 21 que tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains vides. Pour ne pas se présenter devant l'Éternel les mains vides, il y a une étape fondamentale à faire, c'est d'abord être ce qu'on apporte. Donc je mets l'accent aujourd'hui sur le fait que soyons ce que nous apportons. Et ce que nous apportons sera toujours l'expression de ce que nous sommes, et ce que nous sommes fera en sorte que ce que nous voulons vienne. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Donc le chèque que je vais mettre dans l'enveloppe, ça ne va pas être juste un geste que je fais comme tous les dimanches, mais ça va être l'expression de ce que je suis. Le montant, peu importe le montant, mais c'est l'intention du cœur. La manière dont je l'apporte est ce que je suis. Et je suis entier au moment où je mets l'enveloppe dans l'urne. Très important. Et ça, vous en verrez les conséquences, c'est tout à fait différent. Nous passons des fois des années à faire des gestes machinaux, à mettre une pièce d'un euro. Parce que dans cette position, le montant importe peu. C'est ce que tu es qui est fondamental. Au moment où tu fais le geste. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Je vous remercie. Bien. Alors, nous allons nous lever, nous allons confesser la parole pendant que les paniers circulent rapidement entre les rangs. Bien. Alors, c'est une habitude que nous avons ici à l'église La Bonne Nouvelle. Hein. C'est pas quelque chose que nous le disons juste parce que ça fait partie de nos cousus et coutumes, mais c'est parce que ça représente ce que nous sommes. Hein. Conformément à la parole de Dieu, je crois que tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ma destinée a été pourvu à la croix. Je suis si béni en Christ et loin pour prospérer. En apportant à Dieu mes dîmes et mes offrandes, je libère ma foi. Car la foi sans les œuvres est morte. Je reçois proportionnellement une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Ainsi, je déclare que je suis libéré des dettes, des crédits, je prête et n'emprunte pas, j'ai la faveur avec tout le monde. Tout ce que j'entreprends réussit. De superbes opportunités s'offrent à moi. Bonus, primes, augmentations viennent à moi. J'ai la sagesse pour gérer les biens matériels. Je suis si béni que je peux donner pour de bonnes œuvres. Je demande la générosité de Christ afin que son nom soit glorifié. Ange de Dieu, allez exécuter ces paroles au nom de Jésus. Amen. Merci.
Merci Guy. C'est un... Oui, parce que...